18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez bien, c'est vous qui le dites, la quotidienne de Radio U sur le 101.1. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez profité des premières éclaircies du printemps qu'on a eu dimanche. En tout cas, ici, on a bien profité de nos soirées au festival Grand Bain. Et on commence notre semaine, comme la tradition le veut, désormais avec un flash info de Jérémy.
Et bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Et oui, on se retrouve après un certain temps d'arrêt pour un nouveau flash info. Je laisse Tintin lancer le tapis. IVG dans la Constitution, le Parlement était aujourd'hui réuni en congrès à Versailles pour un vote décrit comme historique. Les débats ont été ouverts vers 15h40. La France est à l'avant-garde, elle est à sa place, a salué Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, première femme à présider le congrès. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Introduite à l'article 34, cette phrase sera de la France une pionnière à rebours de plusieurs pays où le droit à l'avortement recule. Le mouvement social des taxis continue toujours aujourd'hui dans toute la France. En Bretagne, ils se sont tous rendus vers Rennes pour une opération escargot sur le périphérique. Ils étaient 200 à rejoindre ce convoi dès 8h ce matin. Les chauffeurs demandent le retrait de la convention appliquée unilatéralement par l'assurance maladie qui prévoit une baisse du prix des courses lorsqu'il s'agit du transport d'un patient. C'est une mesure qui, selon eux, menace l'économie de leur TPE. Le Finistère s'apprête à appliquer la nouvelle réforme du RSA. C'est ici à Brest Métropole qu'elle va être mise en place. Si les modalités doivent être encore précisées, cette expérimentation devrait débuter au deuxième trimestre de cette année. Le versement du RSA sera ainsi conditionné à la réalisation de 15 heures d'activité hebdomadaire. Le conseil départemental du Finistère assure vouloir proposer en parallèle un meilleur accompagnement, plus personnalisé, avec des coachs. Violence envers les élus, l'association des maires ruraux du Finistère et le groupement de gendarmerie départementale ont signé une convention aujourd'hui à Clédin-Cap-Sizun. Cette convention a pour objet de renforcer la protection des élus par la gendarmerie et ainsi de permettre aux élus de faire face aux menaces de plus en plus fréquentes dans le cadre de leur mandat. En 2023, nous avons dénombré 41 faits de violence à l'encontre d'élus en zone gendarmerie, 9 en zone police, recense Alain Espinasse, préfet du Finistère. Un appel à projet intéressant à Concarneau, le CCA Concarneau-Corneuil Agglomération et les acteurs institutionnels locaux lancent un appel à projet politique de la ville 2024 pour mener des actions de développement et d'inclusivité dans le quartier prioritaire de Quérandon. Les projets pourront être déposés jusqu'au 29 mars et devront s'inscrire dans des actions de soutien aux habitants du quartier, en particulier les personnes isolées et les familles monoparentales, mais aussi de lutte contre les discriminations.
Et merci beaucoup Jérémy, et trêve de plaisanterie et de présentation, nous allons tout de suite continuer notre émission avec mon premier invité au téléphone. Donc je suis au téléphone avec Thomas Vescovi, historien et chercheur indépendant, spécialiste d'Israël et des territoires palestiniens occupés, et auteur de L'échec d'une utopie, une histoire de gauche en Israël. Est-ce que pour l'instant tu confirmes cette description ?
C'est parfait.
Alors avant de parler du débat conférence de la semaine dernière, organisé par l'AFPS et le collectif brestois pour une paix juste au Proche-Orient, j'aimerais qu'on discute de ton livre, si tu le veux bien.
Oui.
Donc L'échec d'une utopie, une histoire de gauche en Israël, même si le titre est assez évocateur, est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi parle ce livre, justement ?
Ce livre, en fait, c'est d'essayer de comprendre un énorme paradoxe. Le paradoxe, c'est que l'État d'Israël a été créé par des organisations se revendiquant de gauche, ce qu'on appelle la gauche sioniste. Pour autant, aujourd'hui en Israël, le pays n'a jamais été autant à droite et les mentalités, la société n'a jamais été autant droitisée de l'histoire du pays. Et ce que j'essaie du coup de montrer, c'était comment est-ce que ce pays s'est droitisé, quelles sont les forces qui ont été à la manœuvre dans le cadre de cette droitisation. Et en fait, j'essaie finalement de démontrer que être sioniste de gauche, c'est en soi un paradoxe, puisque le sionisme, en tant que projet, parmi plein de caractéristiques, mais également colonial, eh bien, ne pouvait aboutir qu'à un État de plus en plus à droite, colonisateur et suprémaciste.
Mmh.
Et donc, en fait, le livre, en fait, c'est une histoire du sionisme et d'Israël au Proche-Orient, mais d'un point de vue des partis de gauche. C'est vraiment la caractéristique de ce livre, c'est vraiment de regarder l'histoire d'Israël et des Israéliens, mais à partir de comment l'ont vécu les organisations et les militants de la gauche israélienne.
Et est-ce que du coup tu t'en es servi de base, du coup on va en venir au vif du sujet, comme base pour justement le débat conférence organisé par la FPS ?
Alors en fait, il faut savoir que moi, ça fait maintenant 2 ans que je fais beaucoup beaucoup de conférences autour du livre, parce que c'est vraiment une volonté des gens, surtout qu'en 2023, il y a eu 40 semaines de grandes mobilisations en Israël qui a fracturé le pays avec beaucoup de contestations contre Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Donc mon livre était véritablement au cœur du sujet. Il n'empêche que depuis le 7 octobre, il m'est pour moi quasiment impossible en fait de me cantonner à mon livre, puisque la situation est dans un tel chaos politique, militaire et de violence qui est à son paroxysme, qu'il faut être capable d'élargir le débat pour permettre en fait au public et aux gens qui ont des questions de pouvoir se sentir libre d'aller sur différents terrains. Non pas que je sois spécialiste de tout, mais disons que dans un cadre de débat grand public, disons que je suis assez normalement armé pour à peu près donner des éléments de réponse à tout le monde.
Et alors peut-être on peut faire un petit point rapide sur le conflit. Le conflit est de plus en plus violent, ça on l'a bien vu, et il y a de plus en plus d'appels à un cessez-le-feu de la part de nombreux acteurs politiques mondiaux, notamment aux États-Unis avec la vice-présidente Kamala Harris. La question de comment se finira ce conflit se pose de plus en plus, si mon interprétation n'est pas mauvaise.
En fait, il faut comprendre, et c'est important d'avoir ça en tête, l'État d'Israël et son armée et son gouvernement actuellement ont décidé de considérer l'ensemble des Palestiniens comme des responsables ou co-responsables des massacres du 7 octobre. Ces massacres du 7 octobre, ce que j'ai su dans la conférence, il faut bien les replacer dans un contexte précis qui sont en fait presque 70 ans de domination d'ordre colonial de l'État d'Israël sur la population palestinienne. Cette domination a connu évidemment différents niveaux, différents stades, mais concrètement, c'est cet ordre-là qu'il faut qu'on évoque. C'est-à-dire qu'en gros, le 7 octobre arrive à un moment où, du point de vue palestinien, la guerre n'a jamais cessé. Et c'est ça qu'on a du mal à faire comprendre aux gens, c'est qu'en gros, au 6 octobre, il n'y avait pas une situation de paix ou de pacification, absolument pas. Il y avait une situation qui était de domination, même si c'était devenu à basse intensité, mais pour les Palestiniens, c'était une continuité. Et donc aujourd'hui, on est en train de vivre une nouvelle phase, une nouvelle séquence, mais qui se caractérise effectivement par une guerre à grande échelle menée contre les Palestiniens, dans la bande de Gaza, tout le monde en parle, mais également en Cisjordanie ou à Jérusalem, ou même en Israël même, contre les populations palestiniennes des citoyennetés israéliennes. Et donc, dans tout cet ensemble géographique, aujourd'hui, cette nouvelle séquence se caractérise précisément par un nombre sans précédent de Palestiniens qui sont déplacés, et surtout de victimes, puisqu'on a dépassé de loin les 30 000 morts dans la bande de Gaza.
Et quels étaient les autres points principaux que tu as abordés du coup, pendant ce débat
Ça a d'abord été en fait le contexte général du 6 octobre, c'est ce qui est important, en prenant le temps évidemment de rappeler les victimes de part et d'autre qui sont liées au 7 octobre et après, de rappeler en termes juridiques comment est-ce qu'on peut qualifier les différents actes perpétrés, et ensuite je termine en fait par les points qui me paraissent les plus saillants pour évoquer les perspectives, à savoir comment la bande de Gaza va terminer au terme de cette guerre, qui devra bien finir à un moment ou l'autre. Est-ce qu'il y a une volonté ou non de la part des Israéliens d'expulser l'ensemble des Palestiniens, qu'est-ce qui se passe en Cisjordanie, et surtout sur le plan international, quels appuis, quelles dynamiques sont à l'heure actuellement pour peut-être entrevoir un changement, mais en tout cas j'insiste dans la conférence longuement sur le fait que nous sommes dans une nouvelle séquence. Il faut que tout le monde s'en rende bien compte, ce qu'on vit actuellement, ce qu'on voit dans nos images, ce qu'on vit dans la presse, ce qu'on entend à la radio, c'est historiquement de l'ordre de ce qui s'est passé en 1948 avec la création d'Israël ou 67 avec la guerre des six jours. C'est vraiment un changement qui va complètement bouleverser les rapports de force et les données et entrevoir du coup de nouveaux, peut-être nouveaux acteurs ou en tout cas un nouveau rapport de force pour la suite.
Et justement, quelle serait la suite de ce conflit ?
Ah ben, j'avoue que si je l'avais, je pourrais écrire un nouveau livre pour le donner. Ce que j'explique en fait en fin de conférence, c'est qu'il y a plusieurs questions qui restent en suspens. Ma conviction en tout cas profonde, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a au Proche-Orient un État qui se caractérise par un usage de la violence de manière complètement disproportionnée, qui peut agir en toute impunité, et que cet État justifie cette violence par rapport à des buts de guerre qui me paraissent complètement flous, voire inatteignables. Et donc à partir de là, il faut absolument que ça cesse, que cet État soit sanctionné pour les crimes perpétrés, et qu'ensuite on puisse avoir la population de la bande de Gaza qui puisse se réinstaller dans un cadre de reconstruction, et peut-être finalement entrevoir un nouveau dessin politique, avec évidemment la libération, d'abord avant tout évidemment des otages qui sont dans la bande de Gaza, mais également dans le même temps des prisonniers palestiniens qui doivent être également libérés, parce que c'est aussi dans les prisons de l'armée israélienne qu'on peut avoir un espoir de nouvel avenir palestinien, puisque beaucoup de dirigeants palestiniens sont actuellement dans les prisons de l'armée israélienne.
Et justement, on est venu à parler de la fin de ce débat. Est-ce qu'il y a eu une discussion suite au débat, peut-être du public qui avait des questions et peut-être des points justement que tu voudrais soulever, éclaircir après coup?
Non, pas forcément. Il y a des questions classiques en fait sur le qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, j'avoue que c'est pas trop à moi de le déterminer. C'est plutôt aux associations de solidarité. En revanche, sur les raisons pour lesquelles il y a une telle impunité laissée à l'État d'Israël, en fait, le débat reste ouvert. Et il est vrai que moi, je donne des éléments de réponse propres à mes expériences, qui est en fait qu'il y a encore dans l'opinion publique ou dans les diplomaties l'idée que l'État d'Israël étant un État qui se considère et qui prétend être démocratique, eh bien du coup ne le sanctionne pas, ou alors qu'Israël est un allié dans la guerre contre le terrorisme, eh bien on ne peut pas se rompre avec cet État-là. Moi j'essaie de déconstruire en fait ces idées-là, parce que j'estime qu'aujourd'hui on a au Proche-Orient un État qui, en ne respectant pas le droit international, agit davantage comme un incubateur de radicalité, plus que comme un rempart à la radicalisation. Et donc je pense que la paix que tout le monde souhaite doit d'abord et avant tout passer par l'accès à la justice pour les populations qui en sont victimes.
Et si les auditeurs et auditrices voulaient approfondir le sujet de leur côté, est-ce que tu aurais des recommandations littéraires ou autres à nous proposer?
Alors, outre évidemment mes deux livres, dont le dernier est sorti à la découverte en 2021, qui est en fait une histoire vraiment d'Israël, mais aussi un peu aussi des Palestiniens, mais du point de vue de la relation de gauche. Donc quand on est quelqu'un qui est issu plutôt de la gauche, ce sera toujours intéressant de savoir comment Israël s'est droitisé à ce point-là. Il n'empêche que il y a un livre qui sort bientôt, qui est celui de Alain Gresh, qui s'appelle « Israël-Palestine, vérité sur un conflit ». Et ce livre-là, vraiment, il a été réédité récemment pour prendre en compte cet octobre et il me paraît vraiment déterminant.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Thomas. Est-ce que tu voudrais nous laisser peut-être sur un dernier mot avant de nous quitter?
Je crois vraiment que sans la mobilisation de la société civile, on ne parviendra pas à avoir davantage de voix et de diplomatie française active, proactive et engagée sur cette question qui nous lie à l'histoire, puisqu'il faut rappeler que l'État d'Israël a été créé également par un vote de pays principalement occidentaux, et donc on est lié nous aussi à cette histoire-là.
Mmh, parfait. Bah, merci beaucoup Thomas, encore une fois.
Merci à vous, bonne journée, au revoir.
Au revoir. Et nous, chers auditeurs et auditrices, on va écouter Deira de Saint-Levant et MC Abdoul.
سلم عالديرة يا طير الطير يا أرض الكريمة يخدوش اللي فينا سلم لي عريحة وسلم عالديرة يا طير الطير الشط والرمال بداية حياتي أحلق يا وطن فرحة ومآسي أحلق وطن الغالي فلسطين حبيبة نادي
heavy nights, praying that my family can stay alive. Imagine trying to fly with no wings, but I promise you the cage birds sing in the wintertime. Heavy nights, big dreams, praying that we make it to 16. And even though I travel the world, مش ملاقي زي فلسطين.
آه فات وفات وفات الوقت عمري راحوا سنين وما ناسي هذي عوامر الخطر مجروح. آه فات وفات وفات الوقت عمري راحوا سنين وما ناسي هذي عوامر الخطر مجروح.
C'était Deira de Saint-Levant et MC Abdoul que vous venez d'entendre sur les ondes de Radio U. C'est vous qui le dites, c'est déjà terminé. Merci beaucoup à mon invité Thomas, merci beaucoup à Tintin à la technique, merci Jérémy au Flash Info et bien évidemment merci à vous chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. Et je vous donne rendez-vous demain soir, toujours à 18h, toujours sur le 101.1 pour la prochaine émission.